Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Ça se dispute, toujours en direct sur CNews et toujours face à face. Geoffroy Lejeune, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Ravi de vous retrouver. Philippe Guibert, bonsoir.
Bonsoir messieurs.
Très heureux de vous retrouver également. Au sommaire, l'actualité et ceux qui la composent, qui la commentent, qui la présentent, sont-ils de droite ou de gauche? C'est ce que nous allons tenter d'établir ce soir. C'est pas fait encore et peut-être va-t-on y parvenir puisque c'est finalement ce que devrait être défini par l'ARCOM dans les médias, tous les médias, à la demande de Reporters sans frontières et du Conseil d'État. Pour ce qui concerne les éditorialistes de cette dispute, il semble que c'est évident.
Là, on voit bien la différence.
On voit bien la différence.
Cravate bleue sur chemise bleue.
Donc on est dans les clous.
On a essayé d'aider l'ARCOM, je trouve. Hein.
Là, on les aide bien, mais il y a un problème énorme, Lionel. C'est parce que vous aussi, vous êtes concerné. Et comment on va faire pour vous?
Cravate rouge, veste.
Non, mais prenons la chose à la lettre. Puisque sont visés des présentateurs qui parfois portent une parole, etc., comme c'est souvent le cas sur cette chaîne et sur d'autres aussi. Comment on va faire pour vous classifier, vous, demain? J'imagine que vous n'avez pas envie de dire pour qui vous votez, absolument. Et je vous comprends. Par ailleurs, dans cette émission, vous nous permettez de nous contredire en étant l'arbitre, pour le coup, parfaitement impartial. Je pense que Philippe sera d'accord. Mais vous serez visé également par cette...
Je mets au défi quiconque de savoir, à l'heure d'aujourd'hui, pour qui je vote.
Moi, je sais. Je ne le dirai pas.
Mais vous ne le savez pas, parce que c'est impossible à savoir. Il n'y a que moi.
Vous êtes
véritablement au courant. Non, je ne fais pas partie des abstentionnistes, ça je peux le dire. En revanche, c'est en tout cas le principe fondamental de cette émission, de pouvoir mettre des éditorialistes qui débattent et qui ne sont pas du même avis et qui n'ont pas les mêmes idées politiques. D'où la liberté d'expression. En revanche, pour les autres, ça risque d'être l'usine à gaz. Je parle des autres médias. Ouais. Surtout que François Jost, l'auteur du rapport sur CNews, qui a suscité cette polémique, qui date d'il y a 2 ans, après 15 jours de visionnage de certaines émissions, c'est-à-dire pas toutes les émissions, sans doute pas la nôtre, malheureusement. Donc on va l'inviter à la regarder, on en verra un DVD.
Et bien
même lui, quand on lui pose la question, alors vous êtes de droite ou de gauche? Il a du mal à se situer, écoutez.
Je le comptabilise à gauche ou à droite pour l'ARCOM? Ouais. Je vous comptabilise comment?
Comme qu'un humaniste. C'est ma tendance. C'est mon courant de pensée.
Oui, mais l'ARCOM va nous dire quoi?
De gauche ou de droite?
Pardon.
L'ARCOM va nous dire quoi? Non, faut choisir. Vous avez reçu quelqu'un qui a.
Mais non, attendez.
Que va faire l'ARCOM? Que peut faire l'ARCOM?
Mais ils ont 6 mois pour le dire.
Ben voilà. Oui, mais concrètement, il y a des pistes.
Il y a 3 pistes pour l'instant.
Alors, ça m'intéresse.
Il y a 3 pistes. Il y a une piste qui dit c'est déclaratif. On va demander aux gens où est-ce que vous vous situez.
C'est
une solution.
Mais attends, je vous l'ai dit. Mais c'est fasciste.
C'est pas fasciste, écoutez, quand même.
Mais moi, j'ai pas envie qu'on
vous rappelle qu'on disait aux gens « Mais d'où tu parles, toi ?»
Oui, mais...
Bon, la deuxième, ça consiste à dire « On va... » Regardez si la personne appartient à un think tank, si elle a été dans un meeting électoral avec machin ou machin.
Troisième.
Donc la troisième, c'est un peu semblable à la dernière. C'est de dire, je regarde comment cette personne dans la société se classe.
Geoffroy Lejeune, n'y voyez pas de la provocation, mais les propos qu'il tient sont clairement à gauche, pardonnez-moi.
Écoutez, je n'oserais pas aller jusque-là.
Je suis pas sûr de ça.
Il y a un peu de provocation.
C'est intéressant. Moi, je pourrais passer des heures à décortiquer cette intervention sur Sud Radio. Déjà parce que je ne sais pas si c'est à gauche ou à l'extrême gauche. Ce dont je suis certain, en revanche, c'est que c'est d'une extrême bêtise. Toute l'émission est un naufrage. Ensuite, c'est intéressant parce que la question est parfaite. Comment vous situez-vous? Et il ne veut pas dire, parce que c'est très, comment dire, ça enferme de se situer quelque part. Ici, même sur ce plateau, il est arrivé qu'on tienne des positions, Philippe et moi, moi à front renversé. En fait, c'est notre liberté. C'est notre liberté, c'est même d'ailleurs notre chance infinie. Moi, la raison pour laquelle je ne fais pas de politique, c'est que je ne veux pas justement être contraint à une logique de parti consistant à tenir en tout point des positions identiques à celles voulues par le chef du parti et donc à être lisible. Donc peut-être qu'on peut me classer à droite, bien sûr, et j'ai pas honte de ça.
Tu l'as dit sur le plateau il y a une semaine ou 15 jours.
Bien sûr, avant que je sache que c'était répréhensible. En revanche, par contre, je suis très heureux de pouvoir par moment, notamment sur les sujets économiques, etc., sortir de ce qu'on pense être la droite pour pouvoir réfléchir un peu différemment. Et je termine juste parce que Valérie Expert prononce un mot, on l'utilise à tort et à travers, mais prenons-le au sérieux, le mot fasciste. Elle dit c'est fasciste de faire ça. Il faut que ces gens, en l'occurrence, on est en train de parler de quelqu'un, alors il est peut-être inconnu du grand public, mais il est donc sémiologue, choisi comme expert reconnu par RSF, et c'est son rapport qui fait autorité pour que le Conseil d'État, et là on bascule sur quelque chose de sérieux, décide de chambouler le paysage audiovisuel français. Donc à la fin, il a un pouvoir assez important. Il faut que cette personne comprenne qu'au moment où il met ce sujet sur la table, il faudrait qu'ils se posent la question de si des adversaires politiques avaient cet outil entre les mains, qu'est-ce qu'ils en feraient? Si des gens d'extrême droite, puisqu'il a l'air d'être très engagé à gauche, qui n'avaient aucune, vous savez, la vraie extrême droite, celle qui fait peur, arrivaient au pouvoir et tout à coup pouvaient faire comme lui veut faire. Mais ils n'auraient plus le droit d'aller à la télévision. C'est ça qu'il faut qu'ils se disent. Et ça, je trouve ça très, très, très inquiétant.
Oui, et ça incite peut-être aussi Philippe Guibert à une forme de dénonciation, voire de stigmatisation, en fonction qu'on soit de droite, de gauche, et ça veut dire désigner quelqu'un, quelle horreur, il est de droite, il est de gauche, on n'en sort plus.
Oui.
Ça rappellerait des heures sombres, je trouve.
On est surtout dans le royaume de l'absurdie au nom du bien, quoi. Enfin, c'est-à-dire que vous imaginez, moi, quand j'ai vu cette décision, je me suis dit, on est donc dans un pays où il y a 3 ou 4 chaînes d'information.
Quatre. On peut rajouter France 24, donc ça fait 5.
On est dans un pays où il y a 5 ou 6 chaînes généralistes qui font de l'information générale et qui organisent parfois des débats. On est dans un pays où il y a moult radios, encore plus de journaux, de tendances de tous côtés. Et il y a des gens qui viennent pour expliquer qu'il va falloir maintenant cartographier tous les gens qui s'expriment sur un plateau télé ou sur une radio. On est chez les... Enfin, vous voyez, tout ça est à la fois ridicule, absurde et dangereux. C'est ça qui est très frappant. C'est-à-dire qu'au nom d'une recherche de pluralisme absolu, alors que le pluralisme évidemment existe en France, le pluralisme médiatique existe, on va mettre en place des règles dont tout le monde constate qu'elles vont être très difficiles à appliquer, qu'elles vont avoir des effets pervers, comme vous l'indiquiez, que des chroniqueurs vont être enfermés dans des étiquettes qu'ils ne souhaitent pas forcément assumer et qui ne résument pas, en effet, forcément toutes leurs positions sur tous les sujets. Et donc, on arrive à un système avec complètement plein d'effets pervers, tout ça pour aller embêter une chaîne qui fait 3% de part de marché, qui est en forte progression, mais enfin qui ne fait jamais que 3% de part de marché, parce qu'il y a des gens à qui ça plaît pas. Vous vous rendez compte de l'histoire de fou? On est en France en 2024, dans une démocratie qui se veut libérale, et on en est là avec, puis j'ai vraiment une vraie pensée pour les agents de l'ARCOM, qui vont devoir passer des heures et des heures et des heures de réunions pour essayer de trouver une solution qui puisse vaguement répondre au cahier des charges que leur a fixé le Conseil d'État et qui vont forcément être critiqués de tous côtés quand ils vont faire des propositions. C'est écrit, c'est inéluctable. Et une fois qu'ils auront trouvé des règles, on aura beaucoup de mal à les appliquer. Voilà, donc on est au royaume de l'absurde. Tout ça parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ces news.
Est-ce que cela...
je trouve ça extraordinaire.
C'est assez surréaliste, en effet. Est-ce que ça n'honorerait pas les autres médias, et notamment les autres chaînes info, qui sont aussi des concurrents, mais néanmoins qui font le même métier? Ce sont aussi des journalistes qui fabriquent cette information, en tout cas qui proposent des programmes. Est-ce que ça ne les honorerait pas, au nom aussi de la liberté d'expression, d'évoquer le sujet comme on le fait sur cette antenne, Geoffroy Lejeune?
Si.
Pourquoi les autres chaînes n'en parlent pas au nom de la liberté d'expression? Parce que cela pourrait les concerner aussi. Il semble qu'il n'y ait pas que CNews, même si CNews est désigné et pointé du doigt. Mais normalement,
ça va s'appliquer,
ça devrait être
à
pour
tout le monde.
Tous les médias. Alors pourquoi ils ne s'en emparent pas?
Vous avez raison, ils ne s'en emparent pas. J'ai pas la réponse. Je note quand même, et ça m'a beaucoup amusé cette semaine, que entre lundi, jour où la décision est rendue, où tous les adversaires de CNews applaudissent en disant ça y est, enfin, on va les mettre au pas, et aujourd'hui, il y a eu un petit retour de flamme, parce qu'ils ont compris qu'en fait, on pouvait pas faire une loi d'exception contre CNews. donc du coup ils allaient être aussi confrontés à ça. Et à ce moment-là, vous avez senti, même notamment sur le service public, qui lui est très heureux de ne pas être, que ses chroniqueurs, journalistes, éditorialistes ne soient pas décomptés, comptabilisés en temps de parole gauche-droite, qu'en fait ils sont pas du tout pour cette histoire. Donc il y a un petit retour de bâton. La vérité, si vous voulez, moi ce qui m'a presque plus choqué dans toute cette affaire, c'est que dans le rapport du fameux François Joss qu'on a vu juste avant, il analyse CNews sur 3 émissions pendant 2 semaines, mais il l'analyse en le comparant à BFM TV. Ouais. Et moi, il se trouve que j'ai travaillé sur toutes les chaînes info, que le PAF, j'y ai vraiment été régulièrement, etc. Enfin, j'y ai même été chroniqueur. Et en fait, je comprends la fabrique de l'info sur une chaîne info. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir vu comment ça se faisait ailleurs, vous avez des choix de sujets, des choix de personnes pour traiter les sujets, et vous avez ensuite une coloration qui vient nuancer la chaîne, qui lui donne son identité. Et en fait, c'est exactement pareil. La presse écrite échappe à ça pour l'instant, mais moi je travaille dans la presse écrite depuis maintenant une quinzaine d'années, et c'est exactement la même chose. Ça s'appelle une ligne éditoriale. Et c'est ce qui fait la manière de se distinguer. L'actualité est la même pour tout le monde, mais on se distingue par la ligne éditoriale. Ils sont en train d'expliquer, en fait, même je trouve ça insultant pour BFM, puisque c'est eux qui étaient comparés à CNews, c'est insultant pour eux d'expliquer qu'ils sont une norme qui n'aurait pas de ligne éditoriale. Bien sûr que si, ils en ont une. Ils ont des forces, des faiblesses, ils ont des choses sur lesquelles ils décident d'insister. Et en fait, c'est une méconnaissance absolue du métier du journalisme. D'ailleurs, vous noterez que Christophe Deloire est un journaliste raté, pardon pour lui, mais en fait, il a quand même pas fait une grande carrière de journaliste. Et François Joss est un sémiologue inconnu à l'heure où on parle, enfin, jusqu'à cette semaine.
Il est un petit peu connu il y a quelques.
Oui, dans les cercles jospinistes.
Il y a qu'il soit référent, en tout cas.
Même pas. Mais c'est pas. Je veux dire, il n'est pas académicien, le gars. Et en fait, ce sont des gens qui ne connaissent pas ce métier et qui ne connaissent pas ces évolutions, qui sont en train de nous expliquer comment il faudrait. Enfin, ce qu'ils sont en train de faire, c'est l'équivalent de la loi de 1881 ou de 86, mais c'est une révolution. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, si ça arrivait.
C'est une remise en cause de la loi de 86.
Alors, c'est une remise en cause, mais même des deux lois.
Et de la loi de 81.
C'est la presse, c'est quelque chose auquel on touche la phrase de Montesquieu d'une main tremblante.
Bien sûr, ce que vous décrivez pourrait être passé aussi dans ces chaînes info. C'est exact, c'est-à-dire que ce qui se fait dans la préparation des émissions dans la ligne éditoriale à CNews, c'est exactement la même chose chez BFM, c'est exactement la même chose chez LCI. Après, il y a des choix. LCI, notamment, a pour ligne éditoriale de prioriser sur la guerre en Ukraine.
Bravo. Et sur l'international. Oui, mais très bien.
Et
on ne leur en fait pas le reproche.
Jamais. Et à la fin, le public tranche.
Mais évidemment.
Absolument.
Bien sûr.
Et en fait, là, aujourd'hui,
mais on c'est bien train... ça le problème. Voilà, le public tranche.
Voilà pourquoi on a l'impression d'aller vers un régime autoritaire et une maîtrise de la communication et de l'information dans ce pays désormais.
Ouais, on va vers un régime de l'autocensure, de la bureaucratie absurde qui conduit tout le monde à se tétaniser et à se ranger dans des petites cases. Je ne sais pas si c'est un régime autoritaire, c'est un régime aseptisé. Avec en plus, je me faisais cette réflexion, un présupposé qu'il y a derrière tout ça, que le clivage gauche-droite va forcément correspondre à l'ensemble des sujets et des chroniqueurs.
Et puisqu'il faut,
alors, il y a toujours des tempéraments de gauche et de droite, je pense qu'on en est un peu l'illustration tous les deux. Dire que sur tous les sujets, on doit avoir une position de gauche et une position de droite qui sont... la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de sujets, je pense à la construction européenne, à l'Union européenne en particulier, qui traversent, qui créent des clivages au sein de la gauche, qui créent des clivages au sein des droites, où tout le monde à gauche et à droite n'a pas du tout le même point de vue sur ce sujet qui est quand même assez fondamental. Et puis on pourra en citer d'autres. Je pense que même sur l'écologie, il peut y avoir des clivages, des différences très nettes entre une partie de la gauche qui reste pro-nucléaire et puis une autre gauche qui est anti-nucléaire, etc., etc. On pourrait multiplier sur beaucoup de sujets. En fait, la globalisation a tellement changé l'ordre de nos priorités et a transformé les enjeux, les problèmes du pays et de nos pays, européens en particulier, que le clivage gauche-droite est un peu à la peine. Ça fait juste 30 ans que les politistes le disent. Et là, on a des gens qui viennent nous dire on va classer tout le monde en fonction de la droite et de la gauche.
Et ce clivage, on va s'en servir tout au long de l'émission pour montrer à quel point c'est absurde et surréaliste pour toutes les thématiques d'actualité. On parle de régime autoritaire, il y a les actualités qui s'entrechoquent avec la mort d'Alexeï Navalny, l'opposant politique à Vladimir Poutine, qui était condamné, vous le savez, à une peine de 19 ans de prison pour extrémisme. Les causes de son décès ne sont pas connues. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est à Paris aujourd'hui. Il a été accueilli par Emmanuel Macron. Il y a une conférence de presse et notamment, sur cette actualité-là, la déclaration d'Emmanuel Macron. Écoutez.
Elle met au goulag ses esprits libres, qu'elle les y condamne à mort, à l'instar de M. Navalny, dont je salue la mémoire et l'engagement. Et je pense ce soir à son épouse, à sa famille. Lui qui dément le déclin du courage contre lequel nous mettait si justement en garde Solzhenitsyn. Oui, la mort de M. Navalny dit la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant.
C'est une vraie prise de position dans cette déclaration d'Emmanuel Macron. On ne lui demande pas si c'est plutôt de droite ou plutôt de gauche. Mais en tout cas, c'est une déclaration qui a du sens.
C'est un très bon exemple que vous prenez là pour commencer, parce que c'est absolument inclassable. En réalité, c'est absolument inclassable. Et moi, la position que je vais défendre dans les secondes qui viennent, je pense, sera inclassable également. Donc, pour le temps de parole, ça veut dire, j'aimerais pas qu'on me le comptabilise, si vous voulez, parce que oui. Je suis pas en train de défendre une position de droite. Non, mais c'est moi, ce qui me frappe, c'est la référence à Solzhenitsyn, parce que Poutine s'est exprimé récemment à la télévision américaine, et ce qui a frappé tous ceux qui ont regardé son discours, c'est la manière qu'il avait de se projeter dans le temps long. C'est-à-dire qu'il prenait la Russie comme un élément qui traverse les âges. Il situait le début de tout ce qui se passe en ce moment il y a 200 ans et il le projette dans 200 ans. C'est la marque des grands d'ailleurs, je veux dire, je dis pas que Vladimir Poutine est un homme exceptionnel en disant ça, mais les grands dirigeants font ça. Et on a remarqué qu'en fait il était beaucoup moins concentré sur les 500 mètres gagnés ou perdus chaque jour dans la bataille contre l'Ukraine que sur ce destin russe. Et Macron lui répond au même niveau. C'est ça qui est intéressant, c'est que Solzhenitsyn, dans l'histoire russe, en tout cas dans l'histoire récente russe, c'est celui qui a ouvert les yeux de l'Occident sur la réalité du communisme de l'URSS. Et Le déclin du courage est un livre, un discours absolument exceptionnel, qui d'ailleurs nous concerne plus nous que la Russie, mais bon, ça c'est c'est un autre sujet. Et c'est un livre extraordinaire, c'est le discours d'Harvard, c'est ça.
C'est ça.
En 73, me semble-t-il. Et je trouve assez intéressant que Macron parle de Solzhenitsyn, le dissident qui avait été au goulag, parce que en réalité, vous constatez que c'est une constante dans l'histoire russe que d'enfermer. Et Poutine, je pense, comment j'ai compris, j'étais ce matin avec le ministre de la Défense, pour tout vous dire, au moment où on a appris cette nouvelle, et je me suis dit, fort de cette réflexion sur le fait que Poutine se projetait dans les siècles qui viennent, que au fond la démocratie, notre système de pensée, notre organisation de la vie sociale, politique, etc., n'existe pas aux yeux d'un homme comme ça, qui pense à la survie de son pays, et donc l'opposant encore moins. Et ça fait de doute pour personne qu'il a été assassiné. Et en fait, ça n'encombre pas Vladimir Poutine, pas une seconde. C'est glaçant en fait.
Et ça veut dire aussi que le politique qui est donné en Russie, les prises de position sont appréhendées, gérées de manière différente par rapport à ce qui peut se passer en France. C'est-à-dire que tout simplement, jusqu'à présent, Navalny a été considéré comme un opposant à Poutine, il a été emprisonné. Ses prises de décision et ses déclarations dans les médias se sont retournées contre lui parce qu'on ne peut pas estimer que la Russie soit peut-être aussi démocratique qu'elle l'est. La France l'est, par exemple.
Ah non, ça c'est le moins qu'on peut dire. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous avez dit est-ce qu'on va vers un régime autoritaire, j'ai toujours un peu de mal à dire, malgré toute l'absurdité, tout ce qu'on a dit.
Vers un régime un peu à la Poutine.
Ah non, oui, voilà, c'est pour ça que je n'aime pas utiliser le terme régime autoritaire pour nos pays, parce qu'un régime autoritaire, c'est un. Une dictature, c'est un régime où on tue les opposants.
Oui, ça c'est vrai.
Et c'est quand même un critère de distinction assez important. On peut avoir plein de critères de critique sur notre système, qui a plein de défauts, on vient d'en parler. Mais ça fait quand même un critère important de différence. Ensuite, deuxième réflexion, moi je ne sors pas d'une lecture de Solzhenitsyn, mais je sors de la lecture d'Huntington, Le choc des civilisations, qui est un livre fascinant. Et Huntington explique très bien que une fois que le communisme a sombré et est tombé, on retombe sur des civilisations qui sont marquées par leur histoire, par leur religion. Et il note, vraiment, il explique très très bien que la civilisation russe orthodoxe, dont la Russie est le cœur, c'est pas du tout l'Occident. Et c'est pas notre culture européenne de la démocratie libérale. Voilà. Et que c'est un pays qui n'a pas connu la Renaissance, qui n'a pas connu la réforme protestante, qui n'a pas connu le mouvement des Lumières. L'orthodoxie est certes une religion chrétienne, fait partie de la religion chrétienne, mais n'est pas, n'a pas la même histoire que les autres christianismes et que les autres cultures chrétiennes, catholiques ou protestantes. Et donc, on a un rapport à l'autorité qui n'est pas du tout le même. Et donc, effectivement, là, je te rejoins, Poutine renoue, non pas avec le communisme, pour ça je trouve que la comparaison d'Emmanuel Macron est un peu facile, mais il renoue, enfin, il poursuit une histoire russe où, avant, pendant et après le communisme, à part une courte parenthèse de 10 ans de démocratie, mais qui a été une catastrophe pour la Russie, eh bien, on tue les opposants, on les envoie dans des prisons. Que ça s'appelle le goulag ou que ça s'appelle pas le goulag, ça revient à peu près au même. Et on assassine les opposants. Voilà. Et donc, alors effectivement, ce qui est glaçant, c'est que Poutine fait ça en sachant très bien que ça va soulever un tollé occidental, mais pas mondial, occidental.
Mais oui,
et il s'en fiche complètement.
Complètement.
Parce que la mort et l'assassinat de Navalny, c'est un message aussi qui est passé en interne d'abord, en Russie. C'est-à-dire que c'est un... On est à quelques semaines ou mois de l'élection présidentielle, qui est une élection de façade, hein, tout le monde le sait. Et donc c'est un message fort qui est envoyé à tout le monde en disant, vous voyez, si vous vous opposez vraiment à moi de façon un peu sérieuse, vous voyez comment ça se termine. C'est un message, on ne peut plus clair et tragique.
J'ai relevé quand Philippe a dit le monde occidental. La vérité, c'est qu'il faut aussi s'interroger sur une chose, c'est que nos valeurs, parce que pour le coup, dénoncer la mort d'un opposant en prison, assassiné, déjà il était emprisonné pour extrémisme, il faudrait qu'on m'explique, enfin, il y a rien qui va dans tout ça, selon notre point de vue à nous, mais je me demande si on n'est pas en train de devenir minoritaire dans le monde. Peut-être qu'on
n'y si
est pas encore, mais la vérité,
si
c'est qu'on passe notre vie à traiter avec des républiques ou des monarchies d'ailleurs qui partagent plus la vision de Poutine que la nôtre en réalité.
La question c'est d'ailleurs, c'est le cas évidemment de la Chine et de pas mal d'origines asiatiques.
Le Moyen-Orient,
le Moyen-Orient évidemment, le monde arabo-musulman n'est pas toujours un modèle de démocratie. C'est vraiment, je mets beaucoup d'euphémisme.
Ouais.
Et donc oui, il y a l'Occident, il y a les États-Unis. L'Amérique du Sud, on se demande, et il y a l'Europe, quoi.
Mais peut-être y vient-on, Geoffroy Lejeune, si on muselle l'information, ou en tout cas si on veut lui donner une tonalité unique.
Alors,
ça peut y ressembler, ça peut être le début de ce genre de régime.
Ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que je note la remarque de Philippe qui dit « Attention, personne n'est assassiné pour ses opinions politiques en France », et c'est vrai. Et en même temps, vous avez raison, on est en train de vivre quelque chose, pour nous, vraiment une bascule dans la volonté d'uniformisation, de censure. C'est pas de l'autocensure, d'ailleurs, Philippe, c'est de la censure pure. Enfin, c'est-à-dire vouloir interdire par des moyens mécaniques l'existence d'une pensée dissidente, c'est quelque chose de très 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 grave. Et moi, je pense que c'est une différence de degré, mais pas de nature, en réalité, ce qui est en train de se passer. Et je vais terminer en citant... En fait, le titre du livre de Mathieu Bock-Côté disait tout. On vit le totalitarisme sans le goulag. Ça fait une vraie différence. Je suis d'accord, je préfère vivre sans le goulag qu'avec le goulag. Mais la vérité, c'est qu'on voit aujourd'hui, particulièrement en France, nos démocraties libérales prétendument qui réussissaient à s'autogérer et à tout canaliser, etc., n'y arrivent plus. Aujourd'hui, il y a une tentation de museler, il y a une tentation de faire disparaître. Il y a une, et là, pour le coup, c'est vraiment inquiétant.
En deux mots, très rapidement, il nous reste 20 secondes avant la pause, Philippe. Ou alors, ce que je vous propose, on marque la pause et je vous cède la parole après.
Vous pouvez y revenir, parce que c'est quand même un débat important. Je ne trouve pas que la notion de totalitarisme ait du sens par rapport à un pays.
Ah, sans le goulag, écoute...
C'est pour ça que je n'ai pas encore lu l'essai de Mathieu, et je vais le lire. Mais ça me gêne, parce que je suis en désaccord. Je trouve qu'il y a quelques critères qui sont essentiels et qui séparent une démocratie d'un régime autoritaire ou d'une dictature. Le totalitarisme, c'est encore autre chose. Je trouve qu'on a un usage du mot qui est devenu expansionniste et qu'on le met à toutes les sauces, je trouve, à tort. Mais
on y reviendra. Il y a une forme de violence, en tout cas, des violences tout à fait différentes. Il peut y avoir des violences physiques, des violences morales, mais ça reste de la violence.
Il est de plus en plus interdit de s'indigner, d'ailleurs.
N'est-ce pas ?
Moi aussi.
On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. Ça se dispute, le temps passe trop vite avec vous. On se retrouve avec Philippe Guibert et Geoffroy Lejeune dans quelques instants. A tout de suite. Ça se dispute en direct sur CNews avec Geoffroy Lejeune, avec Philippe Guibert. Mais d'abord un point sur l'information. Michael Dos Santos, bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Emmanuel Macron confirme qu'il se rendra en Ukraine à la mi-mars. Promesse faite à son homologue Volodymyr Zelensky lors de la signature d'un accord bilatéral de sécurité qui prévoit un soutien financier et militaire à l'Ukraine. Depuis l'Elysée, le président français a également souligné la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant après la mort en prison d'Alexeï Navalny, avant de rappeler la volonté de la Russie d'agresser la France avec des cyberattaques. Week-end de débrouille pour des dizaines de milliers de voyageurs. La SNCF prévoit un TGV sur deux jusqu'à lundi matin, 8h. La priorité est donnée aux liaisons vers les Alpes. Trois contrôleurs sur quatre sont en grève. Ils réclament entre autres des revalorisations salariales. 150 000 voyageurs devraient être privés de vacances, selon la SNCF. Enfin, avec un bénéfice net de 10 milliards d'euros, EDF est dans le vert en 2023. L'électricien français bénéficie notamment du redressement de sa production nucléaire. Ces résultats sont qualifiés d'exceptionnels par le groupe. En 2022, la perte était presque de 18 milliards d'euros.
Merci Mickaël. Retour de l'information à 22h en direct sur CNews. Geoffroy Lejeune, Philippe Guibert nous accompagnent pour cette dispute. Comme chaque vendredi, on continue à brosser l'actualité à travers le prisme du clivage droite-gauche, puisqu'on a décidé de le faire depuis le début de l'émission. On va aller jusqu'au bout, évidemment, toujours pour démontrer ce côté absurde, pour parler maintenant de la grève à la SNCF. Encore une. La galère pour les usagers, notamment les vacanciers de février. Écoutez quelques réactions saisies au vol aujourd'hui.
Parce que je savais qu'il allait y avoir des grèves et je voulais absolument arriver à temps à Bordeaux. Donc j'ai pris un Blablacar pour l'aller. Et pour le retour, j'avais pris un train avec la SNCF pour le dimanche soir, mais il a été supprimé. Donc du coup, j'ai dû vite prendre un autre train pour le lendemain matin à 6h. Évidemment, oui, ça m'a saoulé. Ouais.
J'ai eu un train supprimé qui devait partir à la base à 13h. J'ai dû rester sur la page super longtemps parce qu'à chaque fois que j'appuyais sur... sur un trajet, il était déjà pris. J'ai eu la chance d'en avoir un de dernière minute. Je pense que c'est quelqu'un qui avait annulé. Un peu galère, du coup, ouais.
C'est vrai que nous, en tant qu'usagers, ça, c'est des fois pénible. Bon, là, on le voit avec les, nous, maintenant, la SNCF. Ensuite, on va enchaîner sur les blocages de notre pays par les agriculteurs. Donc, bon, c'est dur. C'est dur, mais enfin, chacun a le droit de défendre ses intérêts, quoi.
Et comme à chaque fois, Philippe Guibert, c'est le droit de grève qui fait débat. Le droit de grève est-il de gauche ?
Historiquement, oui. C'est la gauche, les syndicats qui l'ont poussé. La vraie question que pose cette affaire, c'est là où je vais t'embêter par rapport à ma fiche de gauche, c'est que spontanément, je suis assez hostile à tout ce qui restera le droit de grève, parce qu'en réalité, le droit de grève... c'est un rapport de force, c'est-à-dire qu'on autorise un rapport de force. Le problème, c'est que là, on est dans une situation et dans une entreprise où, à chaque vacances scolaires, on se retrouve avec une grève dans les TGV pour embêter les gens. Et je trouve que le comique de répétition ne fonctionne pas très bien, en l'occurrence. Et je trouve que les syndicats, ou le syndicat, je ne sais plus, sont en train de ternir le droit de grève. Ils sont en train de l'affaiblir, au fond. Parce que ce qui va finir par arriver, c'est qu'un beau jour, sous cette majorité ou sous une autre, il y aura une loi qui dira « vous arrêtez de faire grève, vous n'avez plus le droit de faire grève pendant les périodes de vacances scolaires ». Parce qu'on ne peut pas, je veux dire, qu'on le fasse une fois de temps en temps. J'ai entendu un syndicaliste sympathique au demeurant dire « oui, la grande grève de 95, c'était, il y avait les fêtes de Noël ». Bon, une fois de temps en temps, dans des circonstances historiques, qu'il y ait une grève qui gêne les gens dans des vacances, je peux l'entendre. Mais quand c'est tous les étés et tous les hivers, je trouve que là, ce n'est pas acceptable. Et je trouve qu'il, le droit de grève, oui, c'est une idée de gauche pour défendre les salariés, pour leur donner un pouvoir collectif face au patron. Mais là, on est en train de dénaturer, je trouve, le droit de grève. Et on est en train de les discréditer. Et ça m'embête beaucoup, ouais, en tant que gauche.
Et d'amener peut-être effectivement à ce que c'est le cas des LR, qu'il y ait une voie qui soit votée, elle est en préparation, voilà, pour qu'il y ait un droit de grève qui soit séquencé, voilà, et qu'il n'y ait plus d'autorisation, notamment sur les vacances de février ou, voilà, sur les vacances, voilà, de Noël. C'est un vrai risque, évidemment. Mais, Geoffroy Lejeune, les grèves à la SNCF, c'est plus de 5 millions de journées de travail perdues depuis 20 ans. Depuis 1947, il ne s'est pas passé une seule année sans qu'un mouvement de grève ne pénalise les usagers de la SNCF. C'est-à-dire que de 1980 à nos jours, un cheminot a débrayé 1,7 jours par an en moyenne. C'est pas une dérive, ça ?
Écoutez, je vais défendre une position de gauche pour équilibrer mon propre temps de parole et pour pouvoir venir
plus
encore à CNews.
Je t'encourage dans cette voie.
Mais je ne suis pas sûr qu'elle plaise aux syndicalistes. En tant qu'homme de gauche, donc, là, pendant les minutes qui viennent, je vais défendre le droit des travailleurs pauvres qui n'ont pas de solution pour s'en sortir et qui souffrent réellement.
Donc je ne défendrai pas les gens qui ont un statut, un salaire plutôt bon, un comité d'entreprise et la possibilité de faire grève quand ils le veulent dans une situation d'une entreprise qui est monopolistique, c'est-à-dire en fait ils ont un pouvoir de bloquer la France et d'empêcher les gens de partir en vacances. Je vais plutôt défendre les gens qui n'ont pas de statut, qui n'ont pas de retraite, qui n'ont pas de salaire, qui se payent très mal et qui ont des conditions de travail épouvantables et qui, quand ils font grève, perdent de l'argent. Donc ils ne font jamais grève, et qui, quand ils obtiennent le début du commencement de la queue d'une cerise, rentrent chez eux en disant merci, j'ai nommé les agriculteurs.
Voilà, merci. J'allais vous le dire, vous parlez des agriculteurs. Absolument. En effet, quand on compare avec la colère des agriculteurs qui est en train de rebondir, de remonter à la surface, et ce qui se passe à la SNCF depuis des années et des années,
mais surtout,
c'est insupportable.
Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus de grève à la SNCF ? Ils ont eu des augmentations de salaire. Ils ont un statut qui est avantageux. Ouais. Ils ont des bons salaires. Ils ont eu les augmentations qu'ils demandaient très récemment. Ils sont renfloués par l'État quand ça ne va pas. Ils ne se font pas virer quand il y a un problème.
La SNCF a fait des profits, elle est rentable.
D'accord, mais quand
ils ont tellement augmenté les prix,
quand c'est pas le cas, c'était tes impôts et les miens et ceux de Lionel qui ont renfloué, ceux des Français qui ont renfloué les caisses de la SNCF. À un moment donné, je ne sais pas comment satisfaire une colère qui est un puits sans fond, si vous voulez. En revanche, par contre, je continue à jouer cette carte d'homme de gauche, mais je pense que le sujet aujourd'hui, c'est les travailleurs pauvres, c'est les indépendants, c'est les gens qui sont écrasés par les charges, les gens qui ne peuvent pas. En fait, la grève est devenue un luxe dans notre pays. Il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre. Vous avez vu comme moi les images d'une gamine de 14 ans qui faisait tourner l'exploitation de ses parents, qui était partie sur les routes avec leur tracteur. Pourquoi elle faisait ça ? C'est pas parce qu'elle avait la passion de la ferme à 14 ans, c'est parce que sinon l'exploitation s'arrête et c'est un problème pour toute la famille. En fait, ces gens-là n'ont pas le droit de grève, ils n'ont pas le pouvoir de faire grève. La SNCF, c'est possible, ils n'ont aucune conséquence.
Oui, bien sûr.
Guibert, faut-il le réformer d'ailleurs, ce droit de grève?
Vous voyez, je défends un peu
dans les circonstances droite, exceptionnelles.
Histoire de faire symétrie, parce qu'il faut du pluralisme.
Les Jeux Olympiques,
pas que ce soit trop simple.
Mathilde Panot qui appelle à la grève pendant les Jeux Olympiques et justement un débrayage de la SNCF avec cette menace. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour les Jeux Olympiques, effectivement, appliquer une mesure d'urgence pour qu'il n'y ait pas de grève à ce moment-là ? Ce serait dans l'intérêt de tout le monde, non ?
Oui.
Est-ce que ce ne serait pas du terrorisme social que de dire, pendant les Jeux Olympiques...
Lionel, n'utilisons pas le mot terrorisme.
Non, mais je l'utilise à dessein, justement. À dessein.
Des gens et des...
Mais même prise d'otage. On ne devrait pas utiliser le terme d'être pris en otage dans les grèves de la SNCF. Malheureusement, c'est ce que ressentent les gens aujourd'hui.
Oui, mais moi je fais attention aux mots. C'est comme totalitarisme tout à l'heure qui a tué des dizaines de millions de gens. Je trouve qu'on ne l'emploie pas à toutes les sauces. De même pour le mot terrorisme. Mais mais comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont en train de discréditer le droit de grève. Et c'est vrai, là Geoffroy a raison, il y a évidemment une inégalité dans l'accès au droit de grève. Et qu'il est évident que des salariés qui ont des petits salaires et des conditions de vie difficiles, il n'y a pas que les agriculteurs, qui ont du mal à boucler les fins de mois, leur pouvoir de grève... Et n'est pas du tout le même que celui des agents de la SNCF, c'est incontestable. Et il y avait dans la tradition ouvrière le fait, c'était le cas en 95, il y avait l'idée que quand ceux qui avaient plus la possibilité de faire grève faisaient grève, c'était aussi pour les autres. Et là, l'aspect de solidarité ouvrière, pour utiliser des vieux mots de gauche, je la vois moins. Vous voyez ce que je veux dire ? Je la vois pas trop. Dans leur revendication, je ne dis pas que tout est à rejeter. Sur l'aspect salarial, j'entends ce que tu dis. Sur l'aspect sécurité dans les trains et d'accompagnement face aux incivilités, voire parfois de la violence, je peux entendre ce que disent les contrôleurs. Ça ne justifie pas, à mes yeux, de mettre les gens en difficulté au moment des vacances, systématiquement au moment des vacances. Je trouve que ça pourrit le droit de grève et ça le discrédite. Je trouve ça très embêtant.
Autre actualité, l'uniforme à l'école, on en reparle encore une fois, à Béziers, où notamment 719 écoliers sont invités à venir essayer leur nouvelle tenue avant le début de l'expérimentation donc de l'uniforme, ce sera le 26 février lors de la rentrée scolaire. C'est la première commune à se lancer depuis la proposition de Gabriel Attal concernant une tenue unique pour tous à l'école. Regardez ce sujet préparé par Aminata Demphal, Jean-Luc Thomas et Nathan Thémine.
On essaie celui-là, sinon après on peut essayer la taille en dessous. Hein, y a pas de...
Dans la ville de Béziers, c'est l'heure des essayages. Ici, la rentrée se fera en uniforme dans 4 écoles de la ville et les enfants semblent tous conquis.
C'est confortable et c'est un peu à ma taille. Enfin, j'aime bien.
J'aime bien les couleurs, c'est beau.
Il est classe. Il est trop beau.
J'étais stylée comme je me suis regardée au miroir.
Même enthousiasme du côté des parents.
C'est génial, ils n'ont plus de différence sociale, ils seront tous à la même enseigne. Et puis c'est classe.
Moi je trouve que c'est bien, ils ont soit une robe pour les filles avec un pantalon pour les garçons, c'est bien. Moi je trouve ça c'est propre.
Au total, l'uniforme complet composé d'un blazer, d'un pull, de deux polos avec un pantalon, plus un bermuda ou une jupe pour les filles, coûte 200 euros, une somme répartie à égalité entre la ville et l'État.
C'est 200 euros de moins pour les familles. Je suis content, là. J'ai hâte de les voir le 26 alignés dans la cour des écoles, tous habillés de la même façon avec leur petit blazer.
À l'heure actuelle, environ 90 établissements ont fait part de leur intérêt pour l'expérimentation.
8-9, yes.
L'uniforme à l'école, Geoffroy Lejeune, c'est une mesure de droite ou une mesure de gauche ?
Bah avant, c'était de gauche, mais ça, c'était avant, comme on dit. La grande école républicaine qui est un des héritages de la gauche et qui est la fierté d'ailleurs de ce qui reste de la gauche dans ce pays, c'était ça. Ça a été déjà renié par ce qu'est la gauche aujourd'hui. Tout ce que charriait cet héritage a été renié par la gauche, c'est-à-dire une forme de notion d'ordre lointaine, d'autorité, le respect du maître, enfin bref, toutes ces choses qu'on dit toujours sur les hussards noirs de la République, la gauche l'a renié complètement, et c'est devenu droite, parce que la droite, pour le coup, est très à l'aise avec ces valeurs-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on dit Gabriel Attal a fait un virage à droite parce qu'il a proposé l'expérimentation. En fait, vous écoutez le sujet qu'on vient d'entendre. Je ne sais pas si les parents qu'on a entendus sont de droite ou de gauche. Ce dont je suis sûr, c'est qu'ils avaient l'air de venir d'à peu près partout en termes de classe sociale, âge, etc. Et ils avaient l'air tous très contents. Donc ça veut dire qu'en fait, si on s'affranchit de la bêtise d'une certaine gauche, on peut trouver des mesures très populaires. On n'est pas obligé de dire qu'elles sont droites, hein, très populaires, peut-être même, de manière miraculeuse, donneront des résultats. Tous les arguments qui ont été utilisés, c'est drôle. Il n'y avait aucun argument idéologique, que des arguments de bon sens. Et c'est des parents qui réfléchissent en tant que parents par rapport à leurs enfants. Les gamins sont quand même trop mignons. Et donc, je souhaite longue vie à cette expérimentation.
Pourtant, c'est un débat qui devient politique, Philippe Guibert.
Oui, parce que son origine est quand même politique.
Voilà, déjà. Parce que ça ne fait pas l'unanimité. Stable, hein. Ça ne fait pas l'unanimité. Parce que sur la centaine d'établissements, il y en a une quinzaine qui ont fait marche arrière, par exemple.
Ouais.
C'est-à-dire que ça ne fera pas établi dans tous les établissements de France.
Mais longtemps, moi, j'ai été hostile à l'uniforme. Parce que j'appartiens à la génération qui a été libérée des blouses. C'est-à-dire que collégiens dans les années 70, lycéens dans les années 80, je crois que je suis la génération, avant ils avaient des blouses, et c'est quand on est arrivé qu'on a dit on retire les blouses. Et je considérais pas que c'était un immense progrès de remettre des uniformes à des gamins. Et je considérais pas non plus que c'était indispensable pour avoir un respect de l'autorité vis-à-vis notamment des enseignants, qui est une question tout à fait centrale. Ce qui m'a fait basculer, c'est le fait, on est bien obligé de constater, qu'il y a un certain nombre de groupes minoritaires, notamment islamistes, qui testent l'école de la République par rapport à la loi de 2004. Et donc on a eu l'épisode du voile, on a eu l'épisode de l'abaya tout récemment, qui a été réglé. Et je suis convaincu qu'il y aura d'autres épisodes. Ce sont des groupes minoritaires, mais qui peuvent trouver un soutien ponctuel, localisé ou plus général, qui fait que l'école publique est testée de manière récurrente. Et donc l'uniforme peut être une solution. Ça a un autre avantage, l'uniforme, c'est que dans une société qui est devenue très multiculturelle, pas simplement du simple point de vue religieux, de retrouver un peu d'égalité entre les gamins, alors que la consommation, l'argent, l'affichage de ces différences a pris une telle importance qu'elle n'avait absolument pas pour des générations comme la mienne, où nous étions tous relativement dans le même moule, je trouve que de retrouver du commun et de l'égalité est pas plus mal.
Ça réglerait les problèmes de laïcité, effectivement.
Et ça réglerait les problèmes de laïcité.
Mais il faudrait le rendre obligatoire. Pour tout le monde, encore une fois.
Non, mais je trouve que c'est pas mal d'expérimenter, de voir. De l'expérimenter avant de généraliser une mesure.
La vérité, c'est que ça va marcher parce que les gens sont déjà contents et que c'est attendu et que ça donnera du courage à ceux qui ont eu un peu peur et que ça va devenir la norme.
Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi.
Quelques minutes avant de terminer cette émission qui passe décidément trop vite, un sujet qui va sortir un peu des sentiers battus par rapport aux thématiques que nous évoquons habituellement, mais tout le monde en parle, dans la rue, à la machine à café, à la rédaction de CNews, là aussi, Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain.
Est-ce que c'est
va très vraisemblablement quitter la France. Je le vois mal aller à Nantes, à Marseille ou à Saint-Etienne.
À Nantes, il aurait raison.
Il aurait raison,
peut-être. Un grand club,
ou à Marseille.
Historique.
Mais c'est bel et bien fini.
Mais c'est peu probable.
Sans doute attendre encore quelques semaines pour voir le PSG et l'intéressé officialiser cette séparation. Mais il l'a annoncé au président Nasser El Khelaifi. Il l'a annoncé également à ses partenaires. Et c'est une décision qui est irrévocable, sans connaître évidemment la prochaine destination. Juste petite information, Mbappé, c'est tout de même 72 millions de revenus par an. Donc c'est une entreprise à lui tout seul, c'est une marque. On pourrait donc pour cela
est-ce que cette gauche
le cataloguer à droite, en effet. Mais sur ses rares prises de position, on a peut-être le sentiment qu'il serait plutôt à gauche. Alors Mbappé est de droite et de gauche. Où est-il centriste, Geoffroy Lejeune, voire macronien?
Moi, je c'est exactement ce que j'allais vous dire. Moi, je suis pas à l'aise avec le fait qu'on classe l'argent à droite. Je pense que la droite est, en tout cas, si la droite c'est l'argent, moi je suis pas de droite. Et ensuite, pour moi, c'est, je sais qu'il y a une petite, comment dire, difficulté dans l'exercice et ça force. On est un peu dans la caricature, mais pour moi, c'est la quintessence du macronisme des origines. C'est-à-dire que c'est la réussite économique. L'argent dans des proportions, l'argent qui était un peu une valeur à un moment donné, notamment quand Macron supprime l'impôt sur la fortune, il taxe la fortune immobilière mais plus la fortune la bourse, les flux financiers, etc. Donc c'est ça, mais vous avez du gauchisme sociétal quand même. Donc pour moi, c'est vraiment cette articulation, c'est-à-dire qu'en gros, petit ange parti trop tôt, etc., il y a le politiquement correct qui rattrape tout ça. Pour moi, c'est vraiment l'articulation de ce qu'il y a de droite chez Macron, en tout cas de ce qu'il y a de libéral chez Macron, et de ce qu'il y a de gauche chez Macron aussi. Et je pense qu'on peut pas le classer à droite, c'est impossible, à gauche non plus, et par ailleurs, commentaire personnel, mais moi je suis évidemment un fan de foot, vous avez dit 72 millions d'euros de revenus annuels. Jean-François Pérez vous expliquerait mieux que moi, le patron du service des sports du JDD, qu'il gagne plus que ça encore si on comprend ses revenus au Qatar. C'était ça l'articulation de sa fortune jusqu'à présent.
Mais qu'il va peut-être moins gagner s'il part au Real Madrid.
Vous avez raison.
Sauf si avec une prime à la signature. Et ça, Jean-François Pérez vous le dirait aussi.
Exactement. Comme ça, on lui rend hommage. Et moi, je trouve ça détestable. Je suis, en tant que Français, pour le coup, ni de droite ni de gauche, je suis meurtri, en fait, par cette espèce de tango, de danse un peu macabre avec les dirigeants du PSG, qui a consisté à faire monter les enchères, puis à partir pour la première fois. Pascal Praud disait à juste titre hier soir que les Français qui ont gagné un Ballon d'Or ont dû partir à l'étranger pour le gagner. Zidane, Papin, Platini. Bon, mais une fois que ceci est dit, Mbappé, si c'est le meilleur joueur du monde, avait les moyens de gagner le Ballon d'Or en restant au Paris Saint-Germain. Il a décidé de pas le faire et je trouve ça terrible. Évidemment, si.
Là, je commence par un commentaire footballistique.
Je vous en prie,
ni de droite ni de gauche. Mbappé, je pense qu'il a envie de gagner la Ligue des Champions.
Il peut la gagner avec Paris.
Mais Geoffroy, le Paris Saint-Germain, ça fait combien d'années qu'ils investissent pour essayer de la gagner?
Il a passé
n'arrive
7
même
ans
pas
PSG.
À arriver en demi-finale, donc c'est compliqué. Il y a un échec de sportif de ce club. Et le résultat, c'est que Mbappé part. Et donc je rejoins Pascal Praud. Platini, Zidane sont partis de France pour aller gagner aussi, pour avoir un palmarès européen et gagner une Coupe d'Europe. Et c'est la tristesse, c'est que Mbappé est obligé de le faire aussi. Pour cela. Alors après, est-ce qu'Mbappé est de gauche ou de droite?
Il a un petit côté syndicaliste quand même, c'est-à-dire qu'avec l'équipe de France en portant le brassard.
Pas vu,
Mais oui, attendez, c'est lui qui défend les droits d'image des joueurs et qui va tordre le bras de la fédération pour obtenir des primes.
Oui.
Vous avez raison.
Il y a un petit côté syndicaliste, pardonnez-moi.
Oui, c'est vrai, vous avez raison.
Mais moi, je trouve que ce défaitisme consistant à dire qu'en dehors de France, point de salut pour gagner un Ballon d'Or et les
défaitistes
me fait beaucoup de
peine. C'est du réalisme.
Changeons les choses, en fait.
Là, c'est pas.
Jusqu'en 90, on n'est pas la Coupe du Monde, maintenant on la gagne.
C'est un constat d'échec.
Est-ce que je peux vous demander.
Très rapidement, il nous reste 10 secondes.
Un mot,
10 secondes.
Je suis venu avec ce livre. J'ai reçu cette semaine le livre Gulliver enchaîné de Philippe Guibert.
Excellent.
Une réflexion sur le chef de l'État. J'ai commencé à lire. C'est très prometteur, c'est une vraie réflexion, c'est un vrai boulot. Et je voudrais vous demander une faveur, Lionel, si vous voulez, d'organiser une partie du débat la semaine prochaine autour
de ça. Mais bien sûr.
Y a,
Vous auriez même dû me transmettre la couverture du livre, on l'aurait présenté, remontrez-la à l'antenne.
Je veux finir de le lire parce que j'ai lu 40 pages et j'ai déjà 15 points de désaccord. Donc je me prépare.
Gulliver enchaîné, signé Philippe Guibert, ce sera l'une des thématiques et on demandera d'ailleurs si Philippe Guibert est de gauche ou de droite la semaine prochaine.
Absolument.
Si vous êtes d'accord.
Mais c'est parfaitement d'actualité par ailleurs.
Avec grand plaisir.
En tout cas, c'est sympa parce que tu m'as même pas prévenu.
Merci Philippe Guibert et félicitations pour le livre. Merci
beaucoup.
Geoffroy Lejeune, c'est Olivier de Caronflet qui vous attend pour Soir Info sur CNews maintenant, bien sûr. Et vous pouvez revoir cette émission en scannant l'application CNews ou aller sur cnews.fr. Et à demain, 180 minutes info à 14h. Salut.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.